Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Devant toi, Seigneur, je répands mon âme. Ô mon Dieu, je suis à toi. Je me confie en toi, conduis-moi dans la voie de la vérité.
Bien chers amis auditeurs et auditrices, salut et paix à vous tous au nom de Jésus-Christ. C'est l'émission En sa présence, proposée par le Centre biblique. La présentation est faite par votre indigne serviteur Danny Wichai. La méditation que je vous propose aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 13 à 16. Je lis. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construisit contre elle des vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui délivra la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. Pour commencer, je fais remarquer que dans ce chapitre 9e de l'Ecclésiaste, le roi Salomon fait constater une chose amère. Et cette chose amère le faisait souffrir moralement. Cette chose, c'est que la sagesse n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Et pour nous faire comprendre cette dure réalité, il nous a donné cette simple illustration que nous venons de lire. Une ville encerclée. Attaqué par un puissant roi, personne ne pouvait la sauver, sauf un homme. Un homme pauvre, mais sage. Lui seul, délivra la ville. Mais hélas, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Cette parabole m'a amené à intituler ce message de la manière suivante. Souviens-toi de ton sauveur. Et nous lisons cette pensée dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 8 à 9. Je lis. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Souviens-toi de Jésus-Christ, dit l'apôtre Paul à Timothée. Pourquoi ? Eh bien, revenons à la parabole d'Ecclésiaste au chapitre 9. La ville dont il est question ici peut symboliser l'homme, l'âme de l'homme ou son esprit. Le puissant roi, c'est Satan. Ce grand roi décidé à détruire complètement l'homme. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et l'homme pauvre et sage qui délivra la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui le puissant libérateur. Il est dit de lui dans 2 Corinthiens au chapitre 8, au verset 9, ceci. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mais il est aussi, pour nous, la sagesse des dieux. Comme on le voit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, au verset 30-31. Christ a été fait de la part des dieux pour nous, sagesse, justice, rédemption et sainteté. Il est notre sagesse. Il a fait, lui, un plan de sagesse pour l'homme, pour tirer l'homme du gouffre du péché, du gouffre moral qui amène tout le désordre que nous connaissons dans le monde, lui seul. Car il avait en face de lui un roi puissant, avec des armes puissantes. C'est Satan. Il est évident qu'on trouve dans ce monde des hommes pleins de prétentions et qui croient pouvoir sauver l'homme, lui apporter des solutions aux problèmes insolubles. Souvenez-vous de l'actuel président de la République fédérale des États-Unis, Monsieur Obama, qui avait comme slogan de campagne « Yes, we can ». Yes, we can. Mais le « Yes, we can » a déjà montré ses limites face aux grands problèmes de ce monde. Oui, Jésus-Christ seul a été fait de la part des dieux pour nous, sagesse. La reine de Saba était allée à Jérusalem pour entendre la sagesse de Salomon. Christ, lui, est plus sage que Salomon. Il y a ici plus que Salomon, disait-il. Dans le plan de salut qu'il a conçu pour l'homme, il y a tout. Le salut de tout homme et de tout l'homme. Et il l'a réalisé, pleinement réalisé à la croix quand il s'est écrié « Tout est accompli ». On peut le voir dans Jean au chapitre 19 au verset 30. Au moment où nous partageons ce message, le monde entier n'a pas encore fini de se souvenir de Nelson Mandela, l'ancien chef d'État sud-africain décédé il y a peu et enterré dimanche dernier, 15 décembre. Soit dit en passant, c'est le jour de mon anniversaire de naissance. Un homme qui, pour libérer son peuple de l'apartheid, cette odieuse politique de ségrégation raciale, sacrifia sa vie en passant 27 ans en prison. Quand on considère l'ampleur de funérailles qui lui ont été organisées, on prend tout de suite la mesure de la grandeur et de l'importance de cet homme noble. Mais, comme le disent les paroles d'un chant que nous chantons souvent, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, dès quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Certains chefs d'État n'ont pas hésité de confesser publiquement, je pense ici au président Obama, que Mandela était leur modèle, Mandela était son modèle. Mais ces chefs d'État, je vous assure, ne sont pas prêts à en dire autant et même plus de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, chers auditeurs, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est incomparable? Face à lui, tous les noms des grands de ce monde pâlissent. Souviens-toi de Jésus-Christ qui t'a racheté, cher ami auditeur. La Tsunamite, répondait à la question des gardes qui lui demandaient « Qu'a ton bien-aimé plus qu'un autre, ô la plus belle femme? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi ?» Alors, qu'est-ce qu'elle répondait? Elle disait, « Mon bien-aimé est blanc et vermel. Il se distingue parmi 10 000. Il se distingue parmi 10 000. » C'est au Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. « Il est blanc, » disait la Tsunamite. Jésus est le seul homme qui n'a commis ni connu le péché, le Saint de Dieu. Les démons et Satan le connaissent, le reconnaissent comme tel. Tous les hommes, politiques ou religieux ou d'autres, de tous les temps, ont péché. C'est pour cela qu'un vrai chrétien est un vrai adorateur. Il n'a pas d'idole. Il n'élève aucun homme au niveau de son sauveur Jésus-Christ. Dans Proverbe 25, au verset 6, il est écrit ceci. « Ne t'élève pas devant le roi et ne te tiens pas à la place des grands. » Dans la version Darby, il est écrit « Ne fais pas le magnifique devant le roi. » Et dans Louis II, dite à la colombe, il est écrit « Ne te vante pas devant le roi. » Dans la présence du Seigneur, il nous faut nous effacer, réaliser notre néant malgré nos avoirs, nos diplômes. Nous sommes comme Moïse devant Dieu. La terre où nous nous tenons est sainte, nous devons ôter nos sandales. Comment nous souvenir de notre Sauveur? Comment nous rappeler cet illustre personnage, le plus beau fils des hommes? C'est symboliquement lorsque nous participons à la Sainte Cène. Beaucoup de chrétiens sont indifférents à ce mémorial. Je dis mémorial parce que le Seigneur Jésus le dit tel que l'apôtre Paul nous rapporte ses paroles dans 1 Corinthiens au chapitre 11, du verset 24 jusqu'au verset 25. Je lis ceci. « Faites ceci en mémoire de moi ou en souvenir de moi, selon les versions. » La Sainte Cène, c'est un mémorial, c'est un souvenir pour le Seigneur Jésus. Le racheté vient se souvenir au cours de ce moment particulier de tout le bien que le Seigneur a accompli pour lui. Si tu ne participes pas à la Sainte Cène, tu bafoues ton Sauveur, comme d'ailleurs, nous l'avons vu, les habitants de cette petite ville dans la parabole. Ils ont oublié l'homme pauvre et sage qui, par sa sagesse, les avait sauvés d'un grand et puissant roi. Il y a des églises où il n'y a pas de Sainte Cène. D'autres la font une fois l'an, d'autres encore une fois par trimestre ou par semestre. La raison évoquée, c'est d'ordre financier. Or, comme vous le savez, les apôtres et les premiers disciples, conscients de notre caractère oublieux, nous les humains, organisaient la cène du Seigneur chaque premier jour de la semaine, pour le souvenir du Seigneur Jésus et pour l'adorer, lui, le plus beau fils des hommes. Aux yeux des hommes naturels et charnels, Jésus n'a pas de valeur. L'humanité a oublié son puissant rédempteur à cause du matérialisme. Nous vivons une époque où l'homme qui défend la cause de Jésus-Christ n'a plus droit à certaines fonctions dans certaines entreprises ou dans certains organismes internationaux. Il est même devenu un ennemi à abattre, un ennemi à combattre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée qu'il était lié comme un malfaiteur à cause de Jésus-Christ. Mais, dit-il, la parole de Dieu n'est pas liée. Se souvenir de Jésus-Christ, c'est garder sa parole et la proclamer envers et contre tous. Il y a des églises où l'homme qui proclame fidèlement la parole du Christ est repoussé et rudoyé, sous prétexte qu'il est pauvre matériellement ou socialement. Voilà, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est le frère ou la sœur qui a des moyens qu'on écoute. Quand on n'a pas de moyens matériels, on n'est pas écouté. Peu importe la sagesse qu'on distille de la part du Saint-Esprit, mais celui qui est riche, celui qui est socialement haut placé, il est apprécié, il est admiré, il est porté haut en estime, peu importe si ce qu'il dit viole les préceptes de la sagesse divine. Mais que faire pour ne pas oublier Jésus-Christ ? La parole qui peut nous aider à cet égard se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 14 à 15. Je lis « Car l'amour du Christ nous étreint ou nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. » Le verbe clé ici, dans ce passage, c'est « estimer ». Estimer veut dire évaluer, juger, considérer sérieusement. Et sérieusement ici, l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Sa mort et sa résurrection. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Et pourquoi est-il ressuscité? Dans quel but? Voilà des questions sur lesquelles nous devons profondément réfléchir, chacun individuellement. Celui qui ne participe pas à la Sainte Cène est un homme ingrat, cher ami auditeur, chère amie auditrice. Si tu ne participes pas à la Sainte Cène ou à l'Eucharistie, selon un autre langage, tu es ingrat. Tu peux, à travers cela, reconnaître que parmi les hommes les plus ingrats, tu figures, parce que Jésus-Christ t'a tout donné. Il t'a donné sa vie. Il est venu dans ce monde. La parole de Dieu nous montre qu'il est le Fils du Père de toute éternité. Il était l'objet de ses délices de toute éternité. Mais il quitta il renonça à sa gloire et il descendit ici-bas pour te sauver. Nous sommes maintenant dans cette période. Eh bien, savez-vous que le Seigneur Jésus, quand il naquit, il n'avait pas de lieu d'accueil convenable. Personne n'a reçu Marie pour qu'elle puisse enfanter dans les conditions respectables. Et elle alla accoucher dans une étable, dans une espèce de mangeoire. Le Seigneur est né dans le rejet. Il n'avait pas de place dans ce monde. Voilà cet homme pauvre qui a sauvé l'humanité. Mais malheureusement, l'humanité tout entière, exception faite de ceux qui ont cru en lui, l'a rejeté. Les grands de ce monde prétendent que la religion est l'opium du peuple. Mais le christianisme qui annonce Jésus-Christ n'est pas une religion, c'est une vie. Et c'est la meilleure vie qui soit. Le premier ministre Gandhi, le premier ministre indien, avait dit aux chrétiens de son pays, vous savez que les chrétiens sont encore minoritaires en Inde. Et Gandhi leur a dit, écoutez, si vous aviez intériorisé le serment sur la montagne, qu'on trouve dans Matthieu 5, c'est-à-dire les béatitudes, quand le Seigneur, du haut de la montagne, enseignait ses disciples en disant, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des dieux est à eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Heureux, heureux. On dit même que c'est là la charte du royaume des dieux. Le royaume que le Seigneur est venu établir dans ce monde trouve sa charte dans ce serment sur la montagne. Alors Gandhi disait, si vous aviez intériorisé le serment sur la montagne, eh bien, il y a si longtemps que le monde serait transformé. Tout l'Inde serait converti. Voilà, l'homme pauvre qui délivra la ville, c'est l'image de Jésus-Christ. Mais sa sagesse est méprisée. Frères et sœurs, prenons garde à la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu révèle la nature de Dieu, révèle la puissance de Dieu, révèle toute sa sagesse, tout son plan de salut, le plan de l'éducation, de la réformation, de la transformation de l'homme. Cela, ce ne sont pas les moralistes, ce ne sont pas les psychologues qui vont nous apporter quelque chose, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous de lui. Ayons nos pensées focalisées sur lui. Apprenons de lui. Soyons à son école. Soyons ses adorateurs. Nous allons nous courber pour demander que le Seigneur puisse séduire nos cœurs, pour qu'il puisse détacher nos cœurs des vanités de ce monde et de l'ingratitude, de la désobéissance et du mépris vis-à-vis de sa personne. Si tu es de ceux qui foulent aux pieds le Fils des dieux, qui n'ont pas encore cru en lui, tu peux dire, Seigneur, je n'ai que trop méprisé ton nom. Je voudrais, Seigneur, te reconnaître comme mon sauveur personnel, car tu vins sur cette terre pour me racheter. Emmanuel, Dieu parmi nous, il vint pour te racheter, il vint pour te sortir de ce puissant homme bien armé, ce grand roi qu'est Satan. Aucun homme ne pourrait vous arracher de cet homme, de ce roi puissant, destructeur, un tyran. Satan est un tyran. Quand il s'empare d'une âme, il ne peut la lâcher qu'au terme d'un combat sanglant. Et voilà pourquoi le Seigneur alla à la croix, versa son sang pour toi, pour t'arracher à Satan. Quand je considère d'innombrables personnes que j'ai rencontrées, envahies par des hordes de démons, ces personnes étaient méprisables, ces personnes étaient misérables, mais aucun homme de ce monde ne pouvait les secourir. Seul Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, comme il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, lui sera sauvé. Eh bien, courbons nos têtes. Seigneur Jésus, nous voulons t'apporter l'adoration. Alors que le monde t'a rejeté, alors que le monde pour lequel tu donnes à ta vie, vit dans l'indifférence et même dans l'hostilité, dans l'incrédulité. Nous avons, par ta grâce, cru en toi. Voilà pourquoi nous nous présentons devant toi, dans ta présence, pour te magnifier, car tu es magnifique et ton nom est doux à nos âmes. Nous voulons te louer et te demander, Seigneur, que tu attires des âmes qui ne te connaissent pas, que tu ravives aussi, Seigneur, dans nos cœurs, le souvenir de ton amour puissant et merveilleux. Que tu nous sortes de l'ingratitude. Seigneur, que tu charmes nos cœurs, que nous t'aimions. Car ce n'est que justice. Puisque si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur Jésus, à toi la gloire. Toi le plus beau fils des hommes. Avez-vous besoin de contact? Eh bien, vous pouvez appeler votre serviteur, Danny Wichai.
Siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant,
car il parlait toujours d'amour.
Ayant eu comme ami des pauvres pécheurs de Galilée, puis qui le suivit jusqu'au pied de la croix.
Quel immense amour!
Au centre biblique, il y a un cours biblique par correspondance qui est dispensé gratuitement. Et bienvenue à tout celui qui désire aller plus loin dans la compréhension de la Bible, c'est-à-dire de la parole de Dieu. En général, nous proposons quelques séries de cours basés sur les livres de la Bible. Et à la fin de la quatrième série, nous remettons à chacun des correspondants la Bible. Et après cela, nous nous étendons sur d'autres livres de la Bible et nous donnons à chaque fois aussi des ouvrages pour augmenter votre culture biblique. Alors, nous lançons une cordiale invitation au public de cette ville. Venez nombreux pour l'étude de la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous, nos chers correspondants. Que le Seigneur de toute bénédiction, Jésus-Christ, vous bénisse.